est 11h30, Infomag, Jean-François Baudin.
Un homme d'expérience à Matignon, Michel Barnier, 73 ans, est le nouveau Premier ministre. Il a enfin été nommé 50 jours après la démission de son prédécesseur. Son parcours, les défis qui l'attendent, page complète à retrouver dès le début de ce journal. Sur le territoire, le procès des agresseurs des élus de la province sud à l'île des Pins aura lieu le 4 octobre. En attendant, l'un des prévenus a été placé sous contrôle judiciaire. Le second reste en détention provisoire. Du nouveau pour la plateforme guichet-entreprise.nc, d'abord dédiée aux patentés, elle s'élargit désormais aux SARL et aux EURL. Et puis en sport, pas de médaille pour Pierre Ferbank aux Paralympiques. Le Calédonien a pris cette nuit la 4e place du 800 mètres fauteuil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera évidemment suivi par le magazine Transparence. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Et votre invité cette semaine sera Christopher Gigès.
Christopher Gigès, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et nous reviendrons avec lui notamment sur le PS2R, le fameux plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction préparé par le gouvernement. Mais nous l'interrogerons aussi, bien sûr, plus globalement sur l'actualité calédonienne et puis sur la nomination du nouveau Premier ministre. On se retrouve donc d'ici une demi-heure en compagnie de Christopher Gigès.
Économie et politique également au menu du Club Politique ce soir à 16h45.
Au sommaire, c'est incontournable la nomination du Premier ministre, bien sûr, mais aussi le 43e congrès du FLNKS. Et il y a beaucoup à dire. Nous parlerons également de l'entretien que Sonia Backès a eu avec le président de la République, de l'agression de deux élus à l'île des Pins et des réactions que cela a suscité, ou encore de la demande de création d'une commission d'enquête sur les liens avec l'Azerbaïdjan. Et puis nous évoquerons enfin le Forum des îles du Pacifique et la venue en octobre d'une mission d'information. Voilà pour le sommaire de ce club politique qui commence cet après-midi à 16h45.
La France a donc enfin un Premier ministre. 50 jours après la démission de Gabriel Attal et de son gouvernement, après de multiples consultations, tergiversations, discussions, de candidats pressentis puis oubliés, le choix du président de la République s'est donc porté sur Michel Barnier. À 73 ans, il est le 5e Premier ministre d'Emmanuel Macron, le 27e Premier ministre de la 5e République. C'est un homme d'expérience puisqu'il a commencé sa carrière politique à 22 ans lorsqu'il a été élu au Conseil général de Savoie. C'était en 1978. Il a occupé ensuite plusieurs fonctions ministérielles dans les gouvernements Balladur, Juppé, Raffarin, Fillon. Il a aussi été sénateur, député, commissaire européen et négociateur du Brexit. Alors pour quelle raison a-t-il fini par s'imposer comme l'homme de la situation ? Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Michel Barnier est réputé pour être l'homme des compromis, comme le surnomment ses proches. Il l'a montré entre 2016 et 2020, alors en charge de négocier le Brexit pour l'Union européenne. Cet atout lui sera très utile dans les prochaines semaines pour essayer d'éviter les motions de censure à l'Assemblée nationale. Michel Barnier apporte avec lui un programme de droite assumé sur l'immigration, l'insécurité et le budget de l'État. Un moyen de s'assurer le soutien de Marine Le Pen qui a posé ses conditions.
La première étant encore une fois d'avoir un Premier ministre qui soit respectueux des électeurs du Rassemblement national, qui considère que le Rassemblement national est le premier groupe à l'Assemblée nationale et qu'il doit être consulté, traité avec respect. Je pense que M. Barnier correspond à ce critère.
Mais attention, Michel Barnier ne doit surtout pas perdre le soutien du Bloc central, car Renaissance prévient, on ne signe pas un chèque en blanc. Ce jeu d'équilibriste s'incarnera forcément dans la composition du futur gouvernement.
Et dans ce cadre, Michel Barnier ne bénéficiera pas évidemment du soutien de la gauche de l'hémicycle, notamment des députés de la France insoumise, car pour Jean-Luc Mélenchon, la nomination de Michel Barnier est un déni de démocratie.
L'élection a donc été volée au peuple français. Nous découvrons un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national. C'est la personnalité la plus proche de ses positions qui est désignée. Quasiment un gouvernement de M. Macron et de Mme Le Pen. Nous ne croyons pas un instant qu'il se trouvera ensuite une majorité à l'Assemblée nationale pour accepter un tel déni de la démocratie.
Une fois qu'il a été officiellement désigné, Michel Barnier s'est donc rendu à l'hôtel de Matignon pour la cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur démissionnaire, Gabriel Attal. Les deux hommes se sont entretenus en tête-à-tête pendant une demi-heure. Entretien à l'issue duquel Gabriel Attal a exprimé une certaine frustration d'être resté si peu de temps Premier ministre.
Être Premier ministre, c'est l'honneur d'une vie. 8 mois, c'est court, c'est trop court. Et je ne le cache pas, il y a évidemment une frustration à quitter mes fonctions au bout de 8 mois seulement. La politique française est malade. La politique française est malade, mais je crois que la guérison est possible. À condition que nous acceptions tous de nous placer à la hauteur de cette responsabilité historique.
Et lors des 8 mois qu'il a passé à Matignon, Gabriel Attal retiendra notamment l'hommage rendu aux 2 gendarmes morts dans l'exercice de leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie. Il en a parlé lors de cette cérémonie de passation de pouvoir et a salué à cette occasion le travail des forces de l'ordre.
Être Premier ministre, c'est être confronté tout à la fois au meilleur et au pire. Des hommages que nous avons rendus aux gendarmes tués en Nouvelle-Calédonie, aux agents de l'administration pénitentiaire assassinés. Je retiens l'honneur dans la souffrance. Je retiens l'exemple exceptionnel de ces femmes, de ces hommes, forces de l'ordre, policiers, gendarmes, douaniers, agents de la pénitentiaire, qui se lèvent tous les matins et vont travailler au péril de leur vie pour protéger les Français.
Une prise de parole du Premier ministre démissionnaire, désormais ex-Premier ministre, que beaucoup ont jugé un peu long, y compris son successeur qui a introduit son propos par cette phrase. Vous me permettez de dire quelques mots ?
Nous sommes dans un moment grave. J'aborde cette période, cette nouvelle page qui s'ouvre avec beaucoup d'humilité. Mais, mesdames et messieurs, il y aura aussi dans cette nouvelle page des changements et des ruptures. Pour les Français, il faudra dire la vérité et je dirai la vérité. Je ferai tout pour être à la hauteur de leurs attentes et de leurs espérances.
Michel Barnier a d'importants chantiers urgents devant lui. En premier lieu, la préparation du budget de la France. Il devra aussi envoyer à Bruxelles d'ici le 20 septembre le plan de réduction des déficits publics, alors que la France est dans le viseur de la Commission européenne. En tout cas, sa nomination fait la fierté de la Savoie, sa région d'origine. Les Savoyards lui trouvent toutes les qualités, comme a pu le constater Jean-Luc Goujon pour Europe 1.
Savoyard et fier de l'être, c'est ce qu'on aime ici chez Michel Barnier, un homme resté fidèle à ses racines montagnardes, malgré sa carrière politique qui l'a mené à Paris, Bruxelles ou Strasbourg. Il fera un très bon Premier ministre, estime Alain, qu'il a connu chez les scouts dans les années 60, car Michel Barnier a les qualités des gens d'ici, estime-t-il.
C'est un gars qui est droit, c'est quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui lâche pas le morceau. On l'a vu, par exemple, au niveau européen, par rapport au Brexit, il a tenu jusqu'au bout. Il a obtenu ce que lui a voulu et non pas ce que les Anglais ont voulu. Il fallait quand même quelqu'un qui soit carré et puis qui ait de la poigne à quelque part pour dire on lâche pas le morceau. C'est une qualité savoyarde.
Mais c'est aussi un homme ouvert qui sait dialoguer avec tout le monde, explique Jean-Luc. Or, en ces temps troublés, ce sont des qualités primordiales pour occuper la fonction.
Je pense que c'est quand même une bonne chose en cette période. C'est quelqu'un qui peut rassembler et puis qui est à l'écoute des autres. Donc c'est un homme en qui on peut avoir confiance.
Reste que beaucoup se demandent ce que Michel Barnier à 73 ans est allé faire dans cette galère. C'est le cas de Luc.
J'espère qu'il va faire entendre sa voix. Parce que s'il est au gouvernement, pourrait le mouton de Macron, c'est pas la peine.
Malgré tout, cette nomination fait la fierté des Savoyards pour qui Michel Barnier reste l'homme des JO d'Albertville 92 qui ont permis l'essor économique de la Savoie il y a 30 ans. Albertville, Jean-Luc Goujon, Europe 1.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 11h38.
Et en Nouvelle-Calédonie, la nomination de Michel Barnier est bien accueillie chez les partisans de la France. La présidente de la province sud, Sonia Baquet, souligne que c'est un homme de droite attaché à la Calédonie dans la France.
Une bonne nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie, d'abord parce que c'est un homme de droite qui partage nos valeurs, et ensuite parce qu'il a eu l'occasion de s'exprimer sur la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il était candidat à la primaire des Républicains en 2021, en réaffirmant d'une part son attachement à la Nouvelle-Calédonie, mais en plus en demandant que la France réaffirme clairement son attachement à la Nouvelle-Calédonie en tant que territoire français du Pacifique. Donc ça augure plutôt de quelqu'un qui fera le nécessaire pour que la Nouvelle-Calédonie retrouve la paix dans les valeurs et dans l'objectif et le projet qui est le nôtre. Le président de la République m'a dit qu'il comptait continuer à s'occuper directement du dossier calédonien, mais le Premier ministre aura forcément son avis à donner et la mise en œuvre devra faire participer les membres du gouvernement qui sont en charge du sujet.
Nicolas Metzdorf, le député de la première circonscription, est également satisfait de cette nomination. D'abord parce qu'elle est synonyme de gouvernement de plein exercice pour le dossier calédonien, tant sur le plan sécuritaire qu'économique. Et il estime que l'expérience et la personnalité de Michel Barnier seront des atouts pour traiter le dossier calédonien.
C'est un homme de droite qui connaît la Nouvelle-Calédonie et qui défend la Nouvelle-Calédonie dans la France. Donc sur le papier, on peut dire que la nomination de Michel Barnier est une bonne nouvelle aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie. Maintenant, il faudra voir les actes et c'est pour ça que je me rends à Paris dès le début de la semaine prochaine pour le rencontrer rapidement. Je lui ai envoyé un SMS déjà pour lui dire l'urgence de la situation. Donc j'ai envie de dire le travail commence. Je trouve que de mettre un homme d'expérience de l'ancienne école politique est quelque part quelque chose d'assez frais, qui amène de la fraîcheur dans une Macronie qui est très jeune et que ça va amener un peu d'équilibre entre les nouvelles générations de responsables politiques et les anciennes. Je trouve que c'est un choix de ce point de vue-là intelligent.
Virginie Rufnak est également rassurée par cette nomination. La chef de groupe du Rassemblement au Congrès estime que la Calédonie aura un interlocuteur à Matignon.
Un homme de compétence de notre famille politique qui connaît le dossier calédonien et qui d'ailleurs, il y a quelques années de cela, lors des affaires des sous-marins, avait affirmé un choix relativement clair pour la Calédonie. Donc nous sommes heureux que cette personnalité assume ses responsabilités. Nous avons désormais un interlocuteur à Matignon, ce qui était important pour nous dans une période de crise aussi importante pour la Nouvelle-Calédonie. Et nous espérons que nous allons pouvoir retrouver un travail très sérieux sur le règlement de notre problématique aujourd'hui pour que les Calédoniens retrouvent une vie apaisée et puis surtout qu'on sorte la Calédonie de la situation très difficile dans laquelle elle se trouve.
Virginie Rufnak, chef du Rassemblement au Congrès. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la nomination de Michel Barnier à Matignon, le Premier ministre qui devrait annoncer dans les jours qui viennent, et c'est évidemment assez urgent, l'équipe gouvernementale qu'il a choisie pour l'accompagner. Encore un mot de l'actualité en métropole avant de marquer une première pause dans ce journal avec le quatrième jour du procès des viols de Mazan. Gisèle Pellicot, droguée par son mari pendant plusieurs années avant d'être livrée à des inconnus recrutés via Internet, a témoigné devant son bourreau et les 50 inculpés qui ont abusé d'elle. Une prise de parole impressionnante. Stéphane Burgat pour Europe 1.
Toujours avec clarté et avec dignité, même au moment d'aborder les instants les plus douloureux, on devine aisément la force de caractère de Gisèle Pellicot, même si selon elle, ce n'est qu'une façade. L'effet s'étale sur une période de 9 ans. Jamais elle n'a douté de son mari, hein, malgré les pertes de mémoire, malgré les infections gynécologiques à répétition. J'ai été sacrifiée sur l'autel du vice. Je ne sais pas si je me relèverai, souffle-t-elle, alors qu'elle reste suivie par un psychiatre, Gisèle Pellicot, qui a tenu à glisser quelques mots publiquement à sa sortie de la salle d'audience.
Ce que je pouvais dire, c'est pas évident, bien évidemment. C'est un exercice de style qui n'est pas facile. Et puis, il y a aussi la pression de tous ces individus qui sont derrière moi. Et je sens bien qu'on essaye, au niveau des questions, de me piéger, bien évidemment. Donc, j'essaye de répondre le mieux possible. Et puis, il va falloir se battre jusqu'au bout, bien sûr, parce que ce procès va durer 4 mois.
Voilà, Gisèle Pellicot qui refuse de baisser la tête alors qu'une majorité des accusés nie toute culpabilité en évoquant une simple participation à un jeu sexuel. Elle leur assène directement en guise de conclusion. Ayez au moins une fois dans votre vie la responsabilité de vos actes.
Paris déconseille aux Français de se rendre en Azerbaïdjan. Cette nouvelle consigne du ministère des Affaires étrangères s'applique aussi aux binationaux. Le Quai d'Orsay estime qu'ils s'exposeraient à un risque d'arrestation, de détention arbitraire et de jugement inéquitable. Cette cellule de crise déclare qu'en cas d'arrestation, le respect des droits fondamentaux n'est pas garanti. Bakou critique vivement cet avertissement lancé aux voyageurs français dénonçant des allégations infondées. Il est 11h44, une première pause dans ce journal. Dans un instant, nous verrons ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur le territoire.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Depuis 50 ans, la BNC participe activement au développement économique de notre territoire. Tous les jours, nous vous accompagnons dans votre vie quotidienne. Nous sommes à vos côtés pour construire ensemble vos projets d'avenir. Depuis 50 ans, nous sommes la Banque de Nouvelle-Calédonie. Et votre histoire, c'est notre histoire.
Protégez ceux qui comptent le plus. Incendie NC, votre partenaire en sécurité sur l'ensemble du territoire. Formation, vente, maintenance, vous former peut sauver. Contactez-nous au 77 68 96 ou retrouvez-nous sur Normandie. Votre sécurité, notre priorité.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité sur le territoire et deux prévenus comparaissaient ce matin devant le tribunal de Nouméa pour l'agression de Laurent Verdugou et de Virginie Rufnak. Ils ont demandé un délai pour préparer leur défense et ils seront jugés le 4 octobre prochain, Nicolas Legrand.
Oui, les faits remontent à samedi dernier. Les deux élus sont alors en déplacement sur l'île des Pins. Elles viennent rendre visite, mais aussi apporter tout leur soutien aux acteurs économiques et à la communauté religieuse après l'incendie de l'église. Arrivées sur place, elles font face à l'hostilité d'une bande de jeunes cagoulés et armés. S'ensuit une série de menaces et d'injures. « Vous n'avez rien à faire ici, rentrez chez vous ». En partant, la voiture des élus et celle des gendarmes ont été visées par un caillassage. Un cocktail Molotov a même été lancé par un mineur qui est toujours recherché. Les deux individus à la barre ce matin sont poursuivis pour menaces et outrage envers Virginie Rufnak et Laura Vendégout. L'un d'eux est également poursuivi pour avoir transporté et fourni ce cocktail Molotov. Ce matin, Virginie Rufnak, qui s'est constituée partie civile, a tenu à être présente au tribunal.
Nous voulons assumer cette procédure jusqu'au bout, d'abord pour soutenir l'action publique qui est engagée aujourd'hui, et finalement pour être aussi face à ces auteurs dont on considère qu'il y a une nécessité à ce qu'ils assument aujourd'hui la responsabilité de leurs actes, suite à un travail à la fois exemplaire de la gendarmerie, même si on a conscience que ces jeunes se sont rendus à la gendarmerie, et puis aussi de l'appareil judiciaire qui s'est rapidement mis en ordre de marche pour traiter les auteurs des faits de violence qui ont été produits à l'île des Pins contre Laura Vendégout et moi-même.
En attendant leur procès du 4 octobre, l'un des deux prévenus a été maintenu en détention provisoire, l'autre est placé sous contrôle judiciaire.
5 hectares sont partis en fumée hier à Conné. Un feu volontaire a été déclenché aux alentours de 16 heures derrière l'internat provincial et le foyer des jeunes travailleurs. Le feu de brousse s'est vite propagé sans atteindre les bâtiments. Sur place, les pompiers sont rapidement intervenus mais n'ont pu maîtriser les flammes qu'à 21h30. Ils ont dû faire appel au renfort de la sécurité civile. Au total, 6 véhicules incendies ont été mobilisés. Les gendarmes étaient également sur place pour déterminer l'origine du feu, pour l'instant inconnue. Créée en 2019, la plateforme guichet-entreprise.nc offre aux entreprises un gain de temps considérable au travers d'un formulaire unique en ligne. Le service s'enrichit de nouvelles fonctionnalités pour venir au soutien des entrepreneurs en cette période de crise, Isabelle Pelletier.
D'abord dédiée aux patentés, la plateforme guichet-entreprise.nc s'est élargie aux SARL et aux EURL. Immatriculation, radiation et modification sont gérées en quelques clics. Les déclarations enregistrées sont traitées plus tard par le RIDET, les services fiscaux, la CAFAT et les chambres consulaires. Le gouvernement souhaite par ce biais accompagner au mieux les entreprises en cette période difficile, que ce soit pour des fermetures ou des reconversions. Christopher Gigès en charge notamment de l'économie numérique au gouvernement.
On a une vraie volonté de simplifier la vie des entreprises. On l'a toujours souhaité, mais le contexte aujourd'hui nous oblige à accélérer sur cette simplification. Le site guichet-entreprise.nc permettait de créer des entreprises unipersonnelles en ligne. Aujourd'hui, ça permet de créer des SARL en ligne en à peu près 30 minutes de démarche administrative. On va encore améliorer les choses. C'est une première étape, mais on veut vraiment être aux côtés des entrepreneurs pour leur simplifier la vie. On voit aujourd'hui, il y a des gens qui perdent leur emploi en tant que salariés et qui veulent se reconvertir en tant qu'entrepreneurs, qui disent c'est peut-être le moment que je me lance dans l'entrepreneuriat. Et simplifier les démarches pour ces personnes-là, c'était une obligation. Et donc ce site va permettre de faire ça.
Un démarrage d'activité avec une patente est divisé par 7 en moyenne avec guichet-entreprise.nc. Un simulateur de calcul de l'imposition à la patente a été intégré à la plateforme. Autre gain de temps, celui conséquent à la création d'un service de signature électronique. Mathilde Ménil est chef de projet à la direction du numérique et de la modernisation, la DINUM.
Grâce au numérique, en fait, on va permettre d'accélérer le transfert d'informations entre les différents services administratifs et donc de réduire vraiment les délais de traitement. Alors là, aujourd'hui, pour les patentés, hein, on est sur 2 jours et demi en moyenne pour immatriculer son entreprise, contre 15 jours au minima lorsqu'on utilise des démarches papier. Pour la SARL, eh bien, c'est un nouveau service. En tout cas, on sera engagé à réduire au maximum et à être sur des délais inférieurs à une semaine. L'accessibilité, hein, nous tient à cœur. Hein. L'idée, c'est que tout le monde puisse utiliser ce service, donc aussi bien les porteurs de handicap, mais aussi le commun des mortels qui n'est pas forcément familiarisé à tous ces termes hyper techniques, administratifs, juridiques. Le paiement en ligne, voilà, en un clic, il nous suffit d'une carte bancaire et une signature aussi électronique. Donc ça, c'est tout nouveau dans le paysage numérique calédonien qui est demandé, et donc qui évite le déplacement des chefs d'entreprise dans les services administratifs.
À noter que 40% des démarches d'entrepreneurs ont été réalisées en ligne en 2024.
L'économie calédonienne est très durement affectée par les émeutes. C'est ce que souligne l'IOM dans sa dernière note conjoncturelle publiée la nuit dernière, Nicolas Legrand, qui concerne le deuxième trimestre de cette année.
Oui, l'IOM note que les indicateurs conjoncturels sont mal orientés. L'indice du climat des affaires, c'est-à-dire le niveau de confiance des chefs d'entreprise en l'avenir, s'effondre à un niveau historiquement bas, le plus bas d'ailleurs depuis la création de l'indice, à 64,1. De nombreuses entreprises ont été partiellement ou complètement détruites, tandis que les autres ont été confrontées au blocage des axes de circulation par les émeutiers. 85% des entreprises déclarent ainsi une dégradation de leur activité au deuxième trimestre. Près de 6 entreprises sur 10 craignent même une défaillance au cours des 12 prochains mois. Là aussi, c'est tout simplement du jamais vu. Beaucoup de salariés se sont déjà retrouvés au chômage et dans ce contexte, les Calédoniens ont donc moins consommé après les émeutes. Cette baisse de la consommation serait même plus importante que celle observée lors des confinements liés à la pandémie de 2020 et de 2021. Les prix à la consommation ont augmenté de 2% également sur ce trimestre. Les transactions par carte bancaire, elles, ont chuté de près de 17%. Le nombre de personnes s'étant vu retirer leur carte bancaire progresse de 15,6% sur la même période. L'IOM qui note également que les importations ont baissé de 34% et pointe aussi une très forte baisse de crédit à l'habitat. Ils ont tout simplement été divisés par deux.
La France est toujours disposée à organiser avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la visite d'une mission d'information du Forum des îles du Pacifique sur le territoire. Cela fait déjà plusieurs semaines que cette mission est évoquée et elle a été validée lors du dernier forum, lors du dernier sommet du forum à Tonga. Cela s'est fait conjointement lors de discussions que le président du gouvernement, Louis Mapou, a eues avec les membres du forum et les discussions qu'a pu avoir aussi l'ambassadrice de France dans le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, qui était notre invitée ce matin.
Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, lui, représente le gouvernement de Nouvelle-Calédonie comme membre à part entière du Forum des îles du Pacifique. Donc, ils ont leur discussion à huis clos entre leaders du Pacifique. Nous, nous ne sommes pas dans cette discussion. Donc, ils communiquent des informations. Mais apparemment, nous, dans nos discussions de partenaires de dialogue, tous les entretiens que nous avons eus avec les chefs d'État et de gouvernement en marge du sommet à Nuku'alofa, notre sentiment a été qu'ils avaient besoin, tous ces chefs d'État et de gouvernement, d'informations. Et donc c'est une mission d'information.
C'est donc bien une mission d'information qui aura lieu et c'est un besoin exprimé par les pays membres du forum, a précisé Véronique Roger-Lacan.
Ils étaient, oui, très curieux d'avoir des informations équilibrées parce que les informations qui ont circulé dans la région jusqu'à présent ont quand même été assez partiales, n'ont pas reflété les points de vue divers qui peuvent être exprimés sur cette crise. Et très intéressée, j'ai eu notamment cet entretien avec la première ministre des îles Samoa, Naomi Mataafa, qui était très très intéressée par tout ça. Et ça a été aussi le point de vue du premier ministre du Tonga, des uns et des autres. Volonté d'un discours équilibré et d'information équilibrée.
Et ce sont donc l'ensemble de ces échanges qui ont permis de fixer le périmètre de cette mission qui devrait rencontrer de multiples acteurs concernés par les effets des émeutes, nous a dit l'ambassadrice de France dans le Pacifique.
Ce sur quoi on s'est mis d'accord avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, avec le Forum des îles du Pacifique, c'est que c'est une mission donc d'information sur la crise, sur la situation en Nouvelle-Calédonie et qui interagira avec tous les acteurs de la crise, les acteurs politiques, les acteurs économiques. On le rappelle, 2,5 milliards d'euros de destruction d'entreprises, d'acteurs économiques. Donc la situation économique est quand même désastreuse. Les acteurs sociaux, éducatifs, médicaux, religieux, églises, édifices religieux détruits, édifices d'éducation détruits. Donc tout ça, ça va faire l'objet de visites et de discussions.
Aucune date n'a encore été fixée pour la visite de cette mission d'information. Il appartient maintenant au Forum de reprendre contact avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les représentants de la France. On sait toutefois qu'elle sera composée de ce qu'on appelle la Troïka, à savoir les pays qui assurent la présidente tournante du FIP, le premier ministre des îles Cook, dernier président du Forum, celui des Tonga qui assure actuellement la présidence et celui des Salomon qui prendra la présidence dans quelques mois. Présence également dans cette mission du Premier ministre de Fidji.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la question du jour. Va-t-il être possible, selon vous, de réunir les partenaires politiques calédoniens à Paris fin septembre ou début octobre, comme le souhaite le président de la République ? Si vous pensez que c'est possible, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier. 99% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent favorables à la création d'une commission d'enquête du Congrès pour faire la lumière sur les liens entre certains élus indépendantistes et l'Azerbaïdjan. Ils ne sont que 1% à dire qu'ils n'y sont pas favorables. 11h55, la dernière pause de ce journal avant de défiler toute l'actualité sportive et de retrouver ensuite le magazine Transparence.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Cafard, termites, rats, pensez Formula 4D. Vos problèmes seront maîtrisés par une équipe appliquée. Formula 4D, un service de qualité avec réactivité. Info sur formula4d.com.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pardouche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et pour débuter, direction Paris.
Les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB, avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Ah oui, Paris pour les Jeux Paralympiques, évidemment. Et malheureusement, Pierre Ferbank n'a pas réussi son pari. Il repart de la capitale sans médaille olympique, Léo Fichou.
Et pour sa dernière course, effectivement, à Paris, le Calédonien de 53 ans a terminé au pied du podium. C'était sur le 800 mètres fauteuil. Le natif de Yengen, qui n'a loupé aucune Olympiade depuis les Jeux de Sydney en 2000, n'a pas réussi à décrocher une 10e médaille olympique. On le rappelle, un 6e sur le 400 mètres, 5e sur le 100 mètres et donc 4e ce matin sur le 800 mètres. On l'écoute. Pierre Ferbank, juste après sa course.
Je suis bien parti et il manquait d'un peu de vitesse pour rester au contact du groupe de tête. Et après, j'ai continué sur mon élan et j'ai essayé de ne pas me faire dépasser. Donc voilà, dommage pour la médaille. C'était jouable, mais je n'avais pas la vitesse qu'il fallait. Satisfait de cette course, mon dernier 800 mètres aux Jeux Paralympiques avec un public fantastique et une organisation incroyable. Merci aux bénévoles, forces de l'ordre, pour nous faire des jeux parfaits.
Pierre Ferbank qui ne sera pas donc monté sur un podium lors de ces Jeux Paralympiques. Il reste tout de même une chance de médaille pour la Nouvelle-Calédonie. Vitolio Kavakava est qualifié pour la finale du lancer du poids. Ce sera la nuit prochaine dès 4h, heure de Nouméa.
La délégation tricolore qui continue toutefois d'engranger des médailles. 15 nouveaux podiums cette nuit.
Oui, encore une journée prolifique avec effectivement deux titres paralympiques pour Florian Joigny et Mathieu Bosredon en paracyclisme sur route. Des médailles d'argent pour Loïc Vergniaud et Johan Quay aussi en cyclisme. En judo, Sandrine Martinet dans la catégorie des moins de 48 kilos. Timothée Adolphe en parathlétisme sur le 100 mètres. Quatre médailles d'argent donc, et puis des médailles de bronze également pour Julien Michaud en paratir sportif à la carabine sur le 50 mètres couché. Du coup, au classement des médailles, la France conforte sa 5e place avec 61 podiums, 17 médailles d'or, 22 en argent et 22 aussi en bronze. En tête, on retrouve toujours la Chine avec 166 médailles. La Grande-Bretagne et les États-Unis complètent le podium.
C'était les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Le reste du sport, c'est du cyclisme et une victoire espagnole cette nuit sur la 18e étape de la Vuelta.
Il s'appelle Urco Berade Fernandez et il a remporté la première étape de sa carrière sur un grand tour. L'enfant de Pampelune était sur ses terres, hein, dans le Pays Basque, et il s'est imposé en patron. Au classement général, Ben O'Connor conserve son maillot rouge de leader avec seulement 5 petites secondes d'avance sur le grand favori Primoz Roglic. David Gaudu et Pavel Sivakov, les Français gagnent tous les deux une place. Ils sont respectivement 5e et 9e. Ce soir, 19e étape donc de la Vuelta. Ce sera toujours dans le nord de l'Espagne.
Et puis du tennis avec le début ce matin des demi-finales de l'US Open.
Honneur aux dames avec la qualification d'Arina Sabalenka pour la finale du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. Elle s'est imposée il y a quelques minutes en 2-7, 6-3, 7-6 sur Emma Navarro, l'américaine. Dans l'autre demi, Jessica Pegula affronte en ce moment Carolina Muchova. Chez les hommes, demain matin à 6h, heure de Nouméa, le numéro 1 mondial, Gianni Sinner jouera contre Jack Draper à 10h, duel 100% américain entre Taylor Fritz et Frances Tiafoe.
Il est midi, c'est la fin de ce journal. À suivre dans un petit instant, le magazine Transparence présenté par Elisabeth Noir, qui reçoit cette semaine Christopher Gigès, membre du gouvernement.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.